Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Biron, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 27 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. Le Parlement tunisien a approuvé mardi un remaniement du gouvernement alimentant les tensions entre le Premier ministre et le chef de l'État, alors que des centaines de manifestants ont protesté dans la journée contre les inégalités sociales et les violences policières. Hichem Mechichi, le Premier ministre, a nommé 11 nouveaux ministres et a dit espérer que cela permettra d'insuffler un nouveau souffle à son gouvernement. Toutefois, le président tunisien Kais Saied avait indiqué lundi qu'il s'opposerait au remaniement ministériel, dénonçant l'absence de femmes parmi les nouveaux ministres et de potentiels conflits d'intérêts concernant de nouveaux membres du gouvernement tunisien. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a reporté à aujourd'hui l'examen d'une demande de démission du gouvernement et de son premier ministre, étape cruciale dans l'offensive du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la mise à l'écart de son prédécesseur, Joseph Kabila. L'Assemblée a pris cette décision hier en raison de l'absence du premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, un fidèle de l'ancien président Kabila. Le Parlement congolais a expliqué qu'il suspendait sa séance d'une journée pour donner le temps au premier ministre de revenir à Kinshasa. Le premier ministre congolais s'est rendu à Lubumbashi avec un ordre de mission d'une durée de 3 jours, de dimanche à mardi, d'après un document signé par le ministre de l'Intérieur. Les armées françaises et maliennes ont éliminé une centaine de djihadistes lors d'une opération d'envergure menée conjointement en janvier dans le centre du Mali, a indiqué mardi l'armée malienne à l'approche d'un sommet qui réunira au Tchad en février Paris et ses partenaires du Sahel. La région où s'est déroulée l'opération sert de zone d'entraînement et de repli à plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI ou à son rival l'État islamique au Grand Sahara et UJS. Et réconciliation au Mali, des représentants des communautés Peul et Dogon du centre du pays ont signé 3 accords pour tenter de ramener la stabilité dans cette région particulièrement éprouvée par les violences intercommunautaires djihadistes, a annoncé mardi une ONG suisse spécialisée dans les médiations. Les signataires se sont engagés à inciter les membres de leur communauté à œuvrer en faveur de la paix en pardonnant tous les actes passés et en diffusant des messages de cohésion et d'apaisement. Selon le communiqué frontalier du Burkina Faso, le cercle de Koro, l'équivalent d'un département, est l'un des principaux foyers de violence du pays, quasiment inaccessible. Il est sillonné seulement par des ONG, les patrouilles de l'ONU et l'armée malienne. 39 pays se sont engagés mardi, selon l'ONU, à verser 439 millions de dollars sur 5 ans à un fonds onusien destiné à consolider la paix dans des États ébranlés par des conflits, un montant qui reste loin du 1,5 milliard espéré. Lors d'une visioconférence, les États membres ont réaffirmé l'importance d'investir dans la paix, a souligné un communiqué de l'ONU. La visioconférence mardi était présidée par le secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et les chefs de la diplomatie canadienne et allemande, Marc Garneau et Heiko Maas. Le recours en constitutionnalité déposé par un élu républicain ici aux États-Unis pour empêcher la tenue du procès en destitution de Donald Trump a été rejeté mardi par 55 voix contre 45 au Sénat où l'acte d'accusation était arrivé la veille. Le procès en destitution de l'ancien président américain devrait donc débuter le 9 février à la Chambre haute où siègent 100 sénateurs qui seront jurés pour l'occasion. D'un autre côté, le sénateur démocrate Patrick Leahy, qui sera chargé de présider le procès, a été placé mardi en observation à l'hôpital par prudence après avoir indiqué ne pas se sentir bien, a indiqué son porte-parole après l'assermentation des sénateurs. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, au Nigeria, les chefs des hauts commandements de l'armée limogés, décision prise par le président Muhammadu Buhari lui-même, Anthony Blinken et Janet Yellen, deux membres clés du cabinet de Joe Biden, confirmés à leur poste. Et après les sports, nous ferons un saut au cœur du Pentagone, placé désormais sous la direction d'un Africain américain, le premier à occuper le poste de ministre de la Défense des États-Unis. Jean-Roger Billon à ce micro. On revient donc dans un instant. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La suite de nos informations en ce mercredi 27 janvier 2021. Au Nigeria, un nettoyage à la tête de l'armée, le président Muhammadu Buhari a limogé 4 chefs militaires, les chefs d'état-major de la défense, de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ont tous été remerciés. Leur départ était depuis longtemps réclamé par des Nigérians en raison des persistances de l'insécurité dans le pays. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tomba.
Dans un tweet, le porte-parole de la présidence, Femi Adesina, a annoncé le limogeage des chefs militaires et la nomination de leurs remplaçants à la tête de l'armée nigériane. Le major général Léo Irabo devient chef d'état-major de la défense et le major général Atahiru est le nouveau chef d'état-major de l'armée. Le président Buhari est sous pression en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Plusieurs appels ont été lancés pour remplacer les chefs militaires nommés par le président en juin 2015 en raison des manquements et de l'aggravation de l'insécurité dans tout le pays. C'est la première fois que le président Buhari effectue un changement dans les rangs de l'armée depuis son arrivée au pouvoir en 2015, promettant de s'attaquer aux problèmes de sécurité. Mais les attaques de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest se sont multipliées et ont même débordé vers d'autres pays de la sous-région. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken, confirmé hier par le Sénat, est un diplomate attaché aux alliances transatlantiques. En plus de l'américain, il s'exprime également en français. Ce proche de Joe Biden est considéré comme un interventionniste. Abdourahman Dia.
Chargé par le président Biden d'orchestrer le retour des États-Unis sur le devant de la scène internationale, Tony Blinken, 58 ans, martèle que le leadership américain compte encore. Lorsque nous ne sommes pas en première ligne, soit un autre pays tente de prendre notre place, mais probablement pas de manière à promouvoir nos intérêts ou valeurs, soit aucun ne le fait et c'est le chaos, a-t-il expliqué devant les sénateurs qui ont confirmé mardi sa nomination. Il a aussi promis de revigorer les alliances de Washington pour contrer ses principaux adversaires. Cette personnalité consensuelle a séduit pour l'instant plusieurs républicains. Il a estimé que Donald Trump avait eu raison d'avoir une position plus ferme face à la Chine. Mais les désaccords risquent de surgir vite lorsqu'il s'agira de revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien. Le nouveau chef de la diplomatie américaine est aussi guitariste à ses heures perdues. Avant sa nomination, une cinquantaine de personnes écoutaient en moyenne chaque mois sur la plateforme Spotify ses deux chansons, un nombre multiplié par 50 depuis 2 mois.
En choisissant Janet Yellen pour être la première femme à diriger le département du Trésor américain, le président Joe Biden a choisi une économiste progressiste portée sur la lutte contre le chômage, qui soutient la relance budgétaire et la lutte contre le changement climatique. Nathalie Barge.
Après que le Sénat a voté à une écrasante majorité lundi pour confirmer sa nomination, Janet Yellen a prêté serment hier en tant que secrétaire au Trésor devant la première vice-présidente du pays, Kamala Harris, à la Maison Blanche face au bâtiment du Trésor. Cette femme de 74 ans a déjà marqué l'histoire lorsqu'elle est devenue la première femme à la tête de la Réserve fédérale en 2014 et auparavant à la tête du Conseil économique de la Maison Blanche. Janet Yellen sera aux commandes des efforts visant à gagner le soutien du Congrès au plan de sauvetage économique proposé par le président Joe Biden. Lors de son audience de confirmation la semaine dernière, elle a souligné la nécessité d'agir tout en restant consciente de l'augmentation de la dette publique américaine.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En RDC, le gouvernement attend 10 millions de dollars de la duplication des émissions des bons du Trésor de 3 mois d'échéance prévue ce mardi. Selon Financial Afrique, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme pour emprunter 20 millions de dollars sur le marché financier interne pour faire face aux dépenses publiques. La Société nationale algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, assure qu'elle continuera à satisfaire les besoins du marché national qui atteindront 70 millions de tonnes d'équivalent pétrole à partir de 2024 grâce à de nouveaux gisements dans les régions du Sud. La Sonatrach promet aussi de maintenir un niveau d'export annuel de plus de 90 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Son programme d'investissement pour les 5 ans à venir s'élèvera à 40 milliards de dollars. Pour terminer, la croissance mondiale devrait rebondir à 5,5% cette année, après une contraction de 3,5% en 2020, indique le FMI. Cette hausse reflète les attentes d'un renforcement de l'activité propulsée par les vaccins et d'un soutien politique supplémentaire dans quelques grandes économies. Le FMI exhorte les gouvernements à continuer de fournir des bouées de sauvetage aux familles et aux entreprises en difficulté jusqu'à ce que la reprise soit fermement engagée.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Le groupe C a désigné ses quarts de finalistes hier. Le champion en titre, le Maroc, a consolidé sa première place face à l'Ouganda qui l'a battu 5-2. Mission accomplie aussi pour le Rwanda qui se classe deuxième grâce à sa victoire 3-2 devant le Togo. Les Marocains 7 points et les Rwandais 4 points connaîtront leurs adversaires des quarts de finale ce soir. À l'issue des dernières rencontres de poule du groupe D, la Namibie joue la Zambie et la Guinée, la Tanzanie. Guinéens et Zambiens sont en tête de ce groupe avec 4 points de chaque côté, suivis de la Tanzanie, 3 points, et de la Namibie qui compte 0 unité. Les deux premiers quarts de finale, Congo, Mali et RDC, Cameroun, se joueront samedi et les deux derniers dimanche. Les sélections américaines de natation pour les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront en deux étapes à Omaha dans le Nebraska. En juin, afin d'assurer des conditions plus sûres aux sportifs, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a annoncé la fédération. Depuis novembre 2018, pas moins de 1305 nageurs se sont qualifiés pour ces sélections qui se dérouleront du 4 au 7 juin, puis du 13 au 20 juin, cette étape étant la seule qualificative pour Tokyo. Dans le cadre de ce nouveau format, les minima qualificatifs ont été révisés sur la base des temps réalisés lors des 5 dernières sélections olympiques entre 2000 et 2016. Celles et ceux qui ont déjà égalé ou battu le 41e temps de référence fixé par la fédération pour chaque épreuve entreront directement en lice en deuxième semaine. Les autres devront passer par la première étape, les deux premiers validant leur billet pour les finales qui devraient encore concerner au total environ 750 nageurs. Le responsable des finances de la Floride a écrit une lettre au Comité international olympique pour lui dire que son État est prêt à accueillir les Jeux olympiques si Tokyo venait à renoncer à les organiser cet été. Dans sa lettre, Jimmy Patronis vante les efforts de vaccination dans cet État, sa réouverture économique, les événements sportifs qu'il a accueillis pendant la pandémie, tels que le championnat de basket NBA, ainsi que le fait que ses parcs à thème, dont Disney World, sont ouverts aux entreprises. Vendredi dernier, le premier ministre japonais a balayé les rumeurs selon lesquelles son gouvernement aurait secrètement renoncé à organiser les JO prévus du 23 juillet au 8 août prochain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Guillon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. La justice suisse qui enquête depuis des années sur le dossier de corruption concernant la mine de Simandois en Guinée a déclaré cette semaine Benny Steinmetz coupable de corruption d'agents publics et l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Yacouba Ouédraogo a joint Ibrahima Diallo de la coalition Tournons la page en Guinée.
Pour nous, cette décision est salutaire parce qu'elle est sans précédent et c'est un signal fort également dans la lutte contre la corruption dans la mine. Vous savez, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors que les pays disposent des plus importants gisements de minerais, de fer et de bauxite dans le monde.
On sait que cette affaire remonte au début des années 2000. Qui sont les personnes véritablement impliquées dans ces actes de corruption? Qui a reçu les pots de vin?
Dans ce dossier spécifiquement, vous avez vu, c'est la quatrième épouse du général Lansana Conté qui a reçu, n'est-ce pas, une partie des pots de vin. Il y a d'autres cadres également de l'ancien régime qui en ont bénéficié. Le concerné dans ce dossier a tout fait pour pouvoir obtenir très rapidement la concession de Simandou. C'est une pratique qui a toujours existé dans notre pays et qui existe même aujourd'hui. Fort malheureusement, la justice guinéenne est menée par la corruption et les hommes le plus souvent qui sont concernés par ces différents dossiers sont puissants et ils sont aux affaires. Donc ils ont le contrôle de l'appareil judiciaire, ce qui fait qu'ils échappent souvent à la justice nationale.
Justement, vous avez déposé, quand je dis vous, je parle de la coalition en tournant la page Guinée, a déposé une plainte en 2020 au parquet financier de Paris pour corruption dans le dossier de la AMR. De quoi s'agit-il concrètement?
L'AMR, c'est une société écran, nous l'appelons comme ça, société écran, qui est dans les mines de bauxite dans la région de Boké. Cette société s'est enrichie de façon illégale, alors que la société n'avait même pas un capital. La création de la société n'avait même pas un capital d'un million de dollars. C'était vraiment une complicité avec aujourd'hui des ministres et des hauts cadres à la présidence de la République.
Quand vous dites ministres et hauts cadres à la présidence de la République, est-ce que vous avez des noms?
Oui, bien sûr, mais puisque l'instruction est secrète, je ne pourrais pas vous révéler les noms des mises en cause parce que justement, nous avons saisi un cabinet d'avocats qui, à son tour, a formulé la plainte et a déposé au parquet financier de Paris. Au moins, le cabinet d'avocats pourrait faire une communication large et même éventuellement donner les noms des personnes concernées.
La justice suisse a condamné Béni Steinmetz. Est-ce que vous pensez que ça va être un début d'espoir pour vous dans ce dossier que vous avez déposé au niveau du parquet financier de Paris?
Bien sûr, c'est un début d'espoir pour nous parce que nous avons raison d'avoir espoir que la justice française également pourrait s'inspirer de la justice suisse pour que la justice soit rendue dans cet autre dossier de corruption.
Ibrahima Diallo de la coalition Tournons la page en Guinée.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président américain Joe Biden a annulé les restrictions de voyage imposées par son prédécesseur à certains pays musulmans et africains. Le Nigeria faisait partie des pays touchés par ces restrictions imposées en 2017 par l'administration Trump pour raisons de sécurité. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barrache.
Joseph Abba, un habitant d'Abuja, souhaitait passer une lune de miel avec son épouse aux États-Unis après leur mariage en 2018. Il avait préparé tous les documents et demandé un visa qui lui a été refusé, bien qu'il remplissait les conditions.
As an applicant, the pain of being refused, even when you know you're qualified, is something else.
En tant que candidat, la douleur d'être refusé, même lorsque vous savez que vous êtes qualifié, c'est quelque chose. Le fait de connaître cette décision avant même d'aller à l'entretien, c'est un découragement pour le candidat.
Depuis l'interdiction, voyager entre le Nigeria et les États-Unis est devenu presque impossible. L'administration Trump avait mis en avant la menace terroriste, affirmant que les pays figurant sur la liste ne répondaient pas aux normes de sécurité minimales. Donald Trump avait été critiqué au début de son mandat pour ses commentaires sur certains pays africains. Joseph Abba dit douter que les problèmes de sécurité soient la cause d'une telle interdiction.
Le Nigeria n'est pas le seul pays au monde à avoir un problème de sécurité. L'insécurité est comme la pandémie, c'est un fléau mondial.
Lors de son premier jour à la Maison Blanche, Joe Biden a signé 17 décrets, dont un annulant les restrictions de voyage. Les chefs d'entreprise nigérians comme Charles Taiwo, qui dirige une agence de voyage à Abuja, ont salué cette décision.
It's going to be totally really big relief for entrepreneurs like me, especially in the travel industry.
C'est un grand soulagement pour les entrepreneurs comme moi, en particulier dans l'industrie du voyage, qui peuvent finalement entrevoir de nombreuses opportunités et aussi commencer à profiter des avantages de l'afflux entre le Nigeria et l'Amérique.
Grâce à la reprise des voyages entre le Nigeria et les États-Unis, les potentiels touristes internationaux comme Joseph Abba disent qu'ils visiteront l'Amérique, ce qui permettra aux agences de voyage d'augmenter leurs revenus, entre autres avantages économiques, pour le pays le plus peuplé d'Afrique, avec ses quelques 200 millions d'habitants.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la pandémie de COVID-19, plus virulente que jamais en ce début d'année. Alors que deux vaccins sont déjà lancés, leur lente distribution, la hausse alarmante du nombre de cas et la découverte de nouveaux variants semblent atténuer l'espoir que la maladie sera bientôt sous contrôle. Plusieurs pays, y compris en Afrique, ont réimposé des mesures de restriction draconiennes dans l'attente de vaccins. Avec nos invités, nous ferons le point sur la pandémie, les nouveaux variants du coronavirus et les vaccins. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Une semaine après le début de la présidence de Joe Biden, des changements radicaux sont en cours au Pentagone. Le nouveau président américain et le tout nouveau secrétaire à la défense, Lloyd Austin, cherchent à annuler les changements imposés par l'ancien président Donald Trump. Jeff Seldin, correspondant de la VOA au Pentagone, nous en dit plus. Le récit est de Lionel Gaïma.
Flanqué de plusieurs hauts gradés de l'armée, le président Joe Biden, d'un trait de plume, a annulé l'une des politiques les plus controversées de son prédécesseur, l'interdiction des personnes transgenres de servir dans l'armée.
Ce que je fais, c'est permettre à tous les Américains qualifiés de servir le pays en uniforme.
Sur Twitter, le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a salué cette décision, la qualifiant non seulement de bonne chose, mais aussi la seule chose intelligente à faire. Le décret signé lundi n'est que la dernière mesure prise par la nouvelle administration pour aider l'armée américaine à changer de cap. C'est-à-dire tenir une promesse que le futur secrétaire à la Défense a faite aux législateurs pendant son audience de confirmation une semaine plus tôt.
Nous devons aussi à nos employés un environnement exempt de discrimination, de haine et de harcèlement. Et si je suis confirmé, je me battrai dur pour éradiquer les agressions sexuelles et débarrasser de nos rangs les racistes et extrémistes.
Lloyd Austin a déjà publié une note demandant une action contre les agressions sexuelles. Mais faire face aux problèmes croissants de l'extrémisme, comme en témoigne le nombre d'anciens militaires qui ont pris part au siège du Capitole le 6 janvier, sera peut-être plus difficile. Colin Clark, directeur de politique et de la recherche au groupe Soufan, spécialisé dans les questions de sécurité basé à New York.
Nous devons aller au-delà du dépistage des individus portant des tatouages néo-nazis. Ça doit être bien plus que ça. Il faut être plus conscient de ce que font les nouvelles recrues et des membres toujours actifs dans les services en ligne.
Austin sera également confronté à d'autres défis. Il a promis d'aider les États-Unis à répondre à la pandémie de coronavirus. Il a également contacté des alliés proches alors que les choix critiques se profilent sur le marché à suivre en Irak et en Afghanistan où le nombre de soldats américains est tombé à des niveaux les plus bas depuis des années. Et en Afrique où la présence militaire américaine a également diminué. Il y a aussi des tensions accrues avec la Russie, les préoccupations avec la Corée du Nord, l'Iran et puis il y a la Chine. Écoutons Bradley Bowman de la Fondation de la Défense des Démocraties.
Je mettrais la Chine en premier. Je vois la Chine comme une menace. Dans certains cas, et le peuple américain et nos amis du monde entier doivent le savoir, les Chinois ont mis en place des systèmes qui sont aussi bons ou meilleurs que les nôtres.
La liste de choses à faire est donc très longue pour le nouveau secrétaire américain de la Défense, qui est aussi le premier noir à la tête du Pentagone.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Ici même aux États-Unis, l'année dernière, les enfants faisaient partie des centaines de victimes des homicides qui ont atteint un pic. Veronica Balderas, Iglesias de VOA, a visité des communautés défavorisées de la capitale Washington pour voir quels sont les moyens efficaces pour prévenir de nouvelles tragédies en 2021. Son reportage est rendu par Mouamadou Oumfa.
C'est un anniversaire plein d'émotions que célèbre Wanda Ayala, celle de son petit-fils fauché par une balle perdue il y a quelques mois.
Ça fait tellement mal, ça fait vraiment très mal. Il n'avait que 11 ans, il avait sa vie devant lui, il avait un avenir qui lui a été arraché.
Devon McNeil, élève en classe de 6e, a été tué par une balle perdue le 4 juillet 2020, jour de l'indépendance des États-Unis. 4 suspects, membres d'un gang, ont été mis aux arrêts pendant qu'une enquête se poursuit.
It has happened to so many families in DC, you know why?
C'est arrivé à tant de familles à Washington. Pourquoi? Pourquoi devons-nous perdre nos proches, en particulier nos enfants?
Malgré un effort fédéral de plus de 60 millions de dollars pour réduire les meurtres, excepté les suicides, il y a eu plus de 19 000 homicides par arme à feu l'an dernier, le nombre le plus élevé en 20 ans. Le taux moyen d'homicide dans 21 villes a augmenté de 32% par rapport à 2019, avec 198 signalés rien que dans la capitale américaine, une forte augmentation. Le criminologue Richard Rosenfeld pointe le COVID-19 comme l'une des causes de cette hausse, ainsi que l'interruption des patrouilles policières de routine suite aux manifestations de masse qui ont suivi la mort de George Floyd, un noir tué par un officier de police de Minneapolis.
The impact of the pandemic on policing, the possible deterioration of so-called
L'impact de la pandémie sur les activités de la police, la détérioration de la confiance en la police dans les communautés durement touchées par la hausse de la criminalité et par la violence policière sont des facteurs qui ont contribué à la hausse de la violence.
L'une des stratégies envisagées pour maîtriser la criminalité consiste à embaucher des interrupteurs de violence. La maire de Devon, Crystal McNeil, travaillait dans ce rôle pour le gouvernement de Washington, D.C. Elle a établi des relations dans des communautés en difficulté et a encouragé les gens à déposer les armes. Le grand-père de Devon dirige les D.C. Guardian Angels. Ils adoptent une approche similaire. Mais aussi courageuses qu'elles soient, les initiatives de sensibilisation font face à des ressources limitées et des lenteurs administratives. Et les résultats sont mitigés, en partie parce que les causes profondes, économie et racisme, persistent. Clayton Rosenberg, cadre d'une ONG de lutte contre les violences.
Si vous avez une communauté où ils font face à des circonstances similaires, où il y a de la pauvreté, où il y a un manque d'éducation, où il y a un manque de nourriture, où ces individus sont constamment en situation de survie et qu'ils peuvent facilement obtenir une arme à feu, les chiffres de la violence seront élevés.
Angela Pinkney, conseillère sociale certifiée.
Tout le monde est si prompt à juger et à persécuter que personne ne s'arrête pour poser les questions. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que nous puissions améliorer votre situation? Et ces gens-là sont en colère. Les enfants sont en colère. Les adolescents sont en colère. Les jeunes adultes sont en colère parce qu'ils sont désespérés.
Le plan de sauvetage américain de 1,9 trillion de dollars du président Joe Biden, qui doit être approuvé par le Congrès, comprend une aide financière substantielle et des ressources pour la santé mentale. Localement, un budget de 2,4 millions de dollars a été approuvé pour le Bureau de la Sécurité et de l'Action sociale pour la prévention de la violence en 2021. D'autres villes du pays pourraient opter pour une approche moins coûteuse en ayant recours à la dissuasion ciblée. Richard Rosenfeld.
Les personnes à haut risque de violence qui pourraient devenir les prochaines victimes ou agresseurs sont généralement convoquées à des réunions tenues par la communauté de la justice pénale et des services sociaux et elles reçoivent un message à deux volets. Le premier est « Écoutez, nous savons évidemment qui vous êtes ». Le deuxième message est « Voici des services et des soutiens qui peuvent vous aider. Alors, le choix vous appartient. »
Madame Ayala veut que toutes les armes illégales soient retirées des rues et que le système judiciaire se penche sur la libération des prisonniers en raison du COVID-19. L'un de ces prisonniers libérés est impliqué dans la fusillade qui a coûté la vie à Devon. Wanda Ayala, grand-mère de Devon.
Il y a eu tellement de personnes qui ont été libérées malgré des accusations de violence et d'usage d'armes à feu, qui sont sorties et ont assassiné plus de personnes. Le système judiciaire doit changer. Allez, messieurs les juges, nous devons faire un meilleur travail.
Un cri de cœur dans cette Amérique où les violences policières et la criminalité ont toujours représenté un défi pour les administrations successives des présidents démocrates comme républicains.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.